Alors, la semaine dernière, on a vu la fin du Pentateuque. On a parlé de la sortie du pays d'Égypte, de la période dans le désert. Et à la fin, on était arrivé à l'entrée de la terre promise et Moïse qui finissait sa course. Et aujourd'hui, on va regarder l'entrée dans la terre promise avec Josué. Ensuite, on va regarder le livre des juges, avec la période qui va suivre l'entrée en terre promise et la conquête de la terre promise. Et puis, on va regarder le livre de Ruth, qui est une histoire qui se passe pendant la période des juges. Et on fait en quelque sorte toute la période de l'histoire du pays d'Israël, entre le moment où ils entrent en terre promise et le moment où ils vont devenir un peuple avec une monarchie. Puisque la semaine prochaine, on regardera Samuel, roi et chronique, où là, on va avoir les histoires de David, de Salomon, les royaumes, tout ce qui se passe. Ici, on est dans la période avant la monarchie. Et avec la vie et l'établissement du peuple dans la terre promise. Finalement, après tout ce qu'on a vu, après les 40 ans de circulation dans le désert, ils arrivent finalement là où ils devaient entrer au tout début. Et on commence avec le livre de Josué, qui nous parle du personnage qui a prêté son nom comme titre au livre. Donc ce Josué qu'on avait vu la semaine dernière, qui était un des 12 espions qui était allé voir la terre promise au tout début. Pardon.
C'était pas 10?
Non, ils étaient 12. Il y en avait deux qui étaient pour et 10 qui étaient contre. Et c'était Josué et Caleb. Et donc aujourd'hui, on va voir une petite parenthèse sur Caleb aussi. Donc Josué devient le chef du peuple après la mort de Moïse. C'est le début du livre. On a le passage un petit peu de flambeau où Dieu va parler à Josué, va lui dire maintenant c'est toi qui mène les affaires. Il va l'encourager, lui dire de ne pas avoir peur, de se fortifier, de suivre et d'obéir à ce que Dieu va lui dire de faire. Et il se prépare à entrer en terre promise. Dans l'ordre, en fait, ils savent que de l'autre côté, donc ils sont de l'autre côté du Jourdain. Si vous regardez, est-ce qu'il y a une carte là sur ces bibles-là? Donc il y a ici au tout début de la page, là, j'ai failli vous en imprimer, mais là on voit à peu près, c'est pas les choses, mais vous pouvez voir, il y a le mot, il y a Moab, et juste au-dessus il y a Jéricho. Et Jéricho donc qui se trouve juste de l'autre côté, à l'ouest du Jourdain. Donc le peuple est de l'autre côté du Jourdain. Josué va tout d'abord envoyer deux espions voir l'état de la ville de Jéricho. Ils savent que c'est sans doute une des villes les plus fortes qu'ils auront à rencontrer dans la terre promise. Ces deux espions vont trouver une ville forte qui semble imprenable, qui est vraiment très, très fortifiée difficile à prendre. Ils vont trouver une certaine Rahab, une prostituée qui va les aider, qui va les cacher pendant qu'ils font un petit peu le tour de la ville. Et puis on revient au peuple qui va passer le Jourdain à sec. Derrière l'Arche de l'Alliance, en fait, il va y avoir un miracle où les sacrificateurs qui portent l'Arche devant le peuple vont entrer dans le Jourdain et l'eau va s'arrêter en amont et le peuple va tout entier va pouvoir passer. C'est un petit peu Moïse bis. Et donc il passe cette rivière qui était un obstacle, un véritable obstacle pour un grand nombre de personnes comme ça. Là, ils arrivent donc dans la terre promise, avec la conquête qui doit commencer, et Dieu ordonne à Josué de circoncire les hommes. Il l'avait déjà fait dans le passé avec Moïse, mais en fait, c'était la première génération, celle qui était restée celle qui n'a pas eu le droit de rentrer en terre promise. Et donc, en fait, les enfants, ceux qui étaient devenus des adultes, n'avaient pas été circoncis. Et donc Dieu ordonne qu'ils prennent le temps de le faire, savoir que c'est quelque chose qui met une petite pause à leur avancée, parce qu'il faut qu'ils prennent le temps de guérir, de panser les plaies, entre guillemets. C'est pas forcément la meilleure idée. On se dit, on va aller conquérir plein de nations. Ils savent qu'on arrive. Ils ont entendu dire qu'on arrivait. Et puis là, on traverse. Et puis on s'auto-blesse temporairement. Et on ralentit notre progression. C'est pas la meilleure idée. Mais c'était ce que Dieu voulait. Dieu voulait que leur cœur et leur manière de voir la chose soit la bonne. À savoir que c'était Dieu qui suivait et pas les habitudes des hommes. Donc ils obéissent. Ils vont juste après ça célébrer la Pâque. Donc c'est 40 ans après leur sortie du pays d'Égypte. On se souvient qu'il y avait eu la Pâque avec la mort des premiers-nés en Égypte quand ils étaient sortis du pays. On voit que dans le texte, on voit que la manne s'arrête alors de tomber. On sait qu'ils ont mangé de la manne, une sorte de pain fourni par Dieu qui leur a été donné tous les jours. Et c'est ici que ça s'arrête. Et puis, donc, il y a une petite parenthèse où il y a une visite un peu notable. On parle de l'ange de l'Éternel. Il y a Josué qui est en train de se préparer pour aller affronter Jéricho et il voit un homme avec une épée sorti et il dit est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Et là cette personne va dire de l'adorer en quelque sorte, que tu es sur une terre sainte, enlève tes sandales. Et ça va renvoyer sans doute à ce qui s'était passé avec Moïse quand il avait vu le buisson ardent dans le désert quand Dieu l'avait appelé à rentrer chercher son peuple. C'est le même genre de texte. Et on parle là aussi de l'ange de l'Éternel ou de c'est le commandant des armées, le capitaine des armées de l'Éternel, et on pense que c'est une sorte de préincarnation de Jésus. On sait que les anges, en général, ne se laissaient pas adorer. Souvent, quand il y avait un ange qui apparaissait dans la Bible et que l'homme veut, dit, oh, il a envie de louer, l'ange il dit non, moi je suis pas, c'est pas moi que tu dois louer. Alors qu'ici, il n'y a pas cette réaction, et donc on pense que c'est Jésus qui, une sorte d'apparition, et ça va donner confiance à Josué. C'est dans Josué 5. Et donc, on se dit que c'est peut-être cet ange de l'Éternel qui a donné les ordres de bataille à Josué, mais il s'avance vers Jéricho avec un plan de bataille, encore une fois, là, qui semble bizarre, voire ridicule. Se dire, on va aller, il y a une grande ville fortifiée, on va une fois par jour, on va marcher avec les prêtres, on va faire le tour une fois, puis comme ça, pendant 6 jours, on fait juste le tour de la ville une fois. Les gens, ils sont barricadés dedans, ils attendent notre attaque, mais nous, on va juste marcher en faisant le tour, et puis le 7e jour, on va faire le tour 7 fois, et à la fin, on crie fort et on fait sonner les trompettes et la ville va s'écrouler, on pourra rentrer et achever les gens dedans. Et donc c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. On s'imagine là, peut-être la, le moment un peu spécial quand Josué a dû expliquer à ses commandants de troupes le plan de bataille. Donc là c'est bizarre et donc ils le font, ils obéissent et ça se passe comme ça. Ils détruisent la ville de Jéricho. Dieu leur dit de ne pas prendre du tout de butin, de tout laisser. Ils vont sauver cette Rahab qui avait aidé les espions quand ils étaient venus. Et donc tout se passe bien, cette prise de ville. Et puis ils continuent, ils avancent vers la ville qui suit, qui s'appelle Haï. Et là, ils font preuve un petit peu d'arrogance. Et ils se disent, c'est bon, c'est une petite ville, on est tranquille, on a gagné sur Jéricho. Dieu, c'est bon, cette ville-là, on s'en occupe. Ils envoient 3000 hommes en disant, ouais, on pourrait peut-être même en envoyer 2000, ça devrait suffire. Mais ils subissent une défaite. C'est la seule fois dans tout le texte de Josué qu'il est fait mention de pertes humaines pour les Israélites. On ne sait pas les détails exacts, mais en tout cas, ils perdent 36 hommes. Et Josué va alors voir Dieu et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui a désobéi par rapport à l'idée de butin quand vous avez gagné sur Jéricho. Et donc, il découvre qu'il y a un homme qui s'appelle Achan qui a pris des choses alors que Dieu leur avait ordonné de rien prendre. Et cet Achan et toute sa famille et tous ses objets sont mis à mort et brûlés d'après l'ordre de Dieu. Et ensuite, Dieu leur donne une victoire sur Haï après ça, avec une embuscade. Et c'est intéressant, après cette victoire sur Haï, ils vont prendre le temps de relire toute la loi de Dieu ensemble, en tant que peuple, pour se rappeler les ordonnances de Dieu. C'est le chapitre 8, les versets 30 à 35. Ensuite, il y a une ruse, une histoire un peu bizarre avec les Gabaonites qui se disent on risque d'y passer nous aussi. On est un peu le prochain sur la liste au niveau géographique. On va ruser en envoyant des hommes qui ont l'air d'avoir voyagé longtemps. On va les maquiller. Puis on va dire, oui, on vient d'un pays très lointain, on aimerait passer une alliance avec vous, promettez-nous de ne pas nous détruire, et puis on retournera chez nous. Donc Israël, sans réfléchir, dit ok, et puis se rendre compte après de la supercherie, et qu'en fait, c'était une des villes qu'ils devaient éliminer, mais comme ils ont passé une alliance avec ce peuple, ils se disent, on ne peut pas revenir sur notre parole. Et donc ils vont épargner les Gabaonites alors que Dieu leur avait dit qu'ils éliminent les peuplades dans la terre promise pendant cette conquête. Donc ça c'est, on va dire, une des trois grandes parties des conquêtes. Ça c'est un petit peu au centre. Ensuite on va voir ils vont se diriger vers le sud et il y a un certain Adoni-Tzedek qui va se liguer avec plusieurs rois. Et c'est chapitre 10. Et donc ils vont avoir la victoire sur ces rois ligués ensemble. Et Dieu, pendant la bataille avec ces rois, va faire plusieurs miracles. Il y a les ennemis qui fuient devant Israël et Dieu qui envoie des grêlons, où il est dit des pierres de grande taille qui vont leur tomber dessus et en éliminer une grande partie. Et il est aussi question d'un jour qui est rallongé, pour qu'ils puissent finir le travail, entre guillemets. C'est-à-dire que le jour commence à... Ça, c'est la fin de la journée et il y a encore plein d'ennemis en fuite. Et il est dit que Dieu allonge la journée pour leur permettre de finir d'atteindre tous les ennemis. Donc ils prennent et détruisent plusieurs villes à ce moment-là. Et après cette bataille, Josué va encore encourager le peuple à avoir confiance en Dieu, de les rappeler que c'est encore une fois Dieu qui est avec eux et qui a permis toutes ces choses. Et puis, la troisième, peut-être grande campagne, c'est vers le nord, contre un certain Jabin, qui est le roi de Hatsor, qui lui aussi se ligue avec certains rois. Les Israélites vont là aussi avoir la victoire et prendre plusieurs villes plutôt dans le nord du pays. Et donc après cette campagne vers le nord, on voit dans le chapitre 12 la liste des rois vaincus, des différentes conquêtes. Au chapitre 13, on voit qu'il y a encore du territoire qui reste à conquérir par rapport à ce que Dieu leur avait promis. Mais Josué, qui commence à être âgé, on voit au début du chapitre 13, Josué était vieux, il était d'un âge avancé. On sait qu'il avait déjà, il était espion, donc il était sans doute adulte quand il avait été envoyé en tant qu'espion au tout début de la sortie d'Égypte. Puis il avait traîné 40 ans dans le désert avec. Et puis, là, on estime que c'était peut-être vers 7 ans de campagne là, en terre promise. Et donc il va un petit peu passer le bâton et il prend le... Ils arrêtent la campagne militaire pour prendre les territoires en plus et ils vont partager le pays qui a été conquis parmi les tribus. Donc on a une grande partie du livre qui est ce partage. On voit les territoires qui sont accordés aux différentes tribus. On voit un petit épisode où il y a c'est avec Caleb. Caleb qui lui voulait prendre qui avait un certain territoire alors qu'il est lui aussi âgé, qui dit je vais aller prendre le territoire qui m'était promis et qui monte conquérir encore ce qui lui était promis, le territoire qu'on appelle Hébron. Ils établissent une liste de villes de refuge. C'était quelque chose, il y a 6 villes de refuge, c'était par rapport à la loi. Si on tuait quelqu'un par accident, à l'époque il n'y avait pas de police, de juge, de magistrat, etc. Et il y avait ce qu'ils appelaient le droit du sang, où on pouvait, le droit de rétribution, où ils pouvaient, si on tuait quelqu'un par accident, la famille pouvait venir se venger. Et donc il y avait une sorte de dans la loi, une parenthèse où si c'était quelque chose qui n'était pas fait exprès, la personne pouvait s'enfuir dans une de ces villes de refuge et ils avaient le droit de pas être mis à mort en vengeance s'il était avéré que c'était un accident, que c'était pas quelque chose de volontaire. Et il y a aussi 48 villes qui sont données aux Lévites qui eux n'avaient pas le droit à un territoire à proprement parler, mais à des villes. Ça finit avec 3 tribus, Ruben, Gad et Manassé, qui eux, avant l'entrée de la traversée du Jourdain, avaient déjà dit on aime bien le territoire qu'on a déjà là, nous on préfère rester avoir ce territoire là. Et donc eux, en fait, ça c'est plutôt vers la fin, c'est le chapitre 22. Ils étaient venus aider avec les conquêtes. Les hommes, ils avaient envoyé leurs hommes faire la guerre avec le reste d'Israël. Mais après cette conquête, eux, ils retournent de l'autre côté du Jourdain dans les territoires qu'ils avaient pris pour eux, qui avaient déjà été conquis avant. Et On a la fin de la vie de Josué, où il se rend compte que c'est la fin de sa course et il va encourager Israël à continuer à obéir à Dieu et à suivre Dieu et à suivre sa loi. Et l'idée qui ressort, c'est qu'il y a une paix, le territoire est en paix, il y a une stabilité là par rapport au territoire, ils sont bien, ils ont pris le territoire que Dieu leur avait donné pour le moment, même s'il reste du territoire à conquérir. Et donc ça, c'est le livre de Josué. On n'est pas sûr de qui a écrit ce livre. On pense que c'est en grande partie Josué lui-même, mais qu'il y aurait eu quelques ajouts après sa mort par d'autres personnes. Le nom de Josué est en fait une variante du même nom qui donne Jésus, et ça veut dire l'Éternel sauve. Et Josué est un type de Jésus. Il y a des parallèles avec la vie de Jésus et avec ce que Jésus va faire pour nous. On pourrait, on pourrait dire que Josué est celui qui va conduire le peuple dans le repos, et que d'une certaine manière, c'est ce que Jésus fait pour l'Église, pour les hommes. Les idées qui reviennent, alors il y a la puissance de Dieu avec les miracles qu'il fait, les différentes choses qu'il va faire pendant les batailles. Par rapport à certains des miracles, je ne rentre pas trop dans le détail, mais par exemple le jour qui a été allongé, il y a des personnes qui ont des... quand on lit ça, des fois on se dit, mais c'est un peu... Quand on voit nos cours de comment la Terre tourne, etc., c'est pas possible. Si d'un coup la Terre s'arrête, il y a la vitesse, il y a des problèmes et tout ça. Mais il y a des gens qui cherchent à expliquer ça de manière rationnelle avec des explications scientifiques concrètes. Et il y a des théories qui collent et qui semblent marcher. Il y a notamment une idée qui revient pour pas mal de choses qu'on voit dans la Bible, qui est l'idée que l'orbite peut-être de la planète Mars était différente que ce qu'elle est aujourd'hui, et qu'à des périodes dans l'histoire, la planète Mars viendrait beaucoup plus proche de la Terre que ce qu'elle fait aujourd'hui. Et ça expliquerait pourquoi il y avait une sorte de vénération de cette planète, pourquoi dans toutes les cultures... il y a cette idée que la planète Mars, il y avait une sorte de peur de cette planète. Il y a aussi certains détails. On a découvert dans les années 1800 qu'il y avait deux lunes sur Mars, enfin deux lunes pour la planète Mars. Et donc ils ont découvert ça avec les télescopes dans les années 1800. Et en fait, il y a des références antérieures à ces deux lunes dans les années 1600, 1500. Par différentes personnes, et donc on pense que peut-être que si Mars venait beaucoup plus proche de la Terre que ce qu'elle fait aujourd'hui, ça expliquerait en partie pourquoi on savait qu'il y avait des lunes, alors que après on n'a pas pu les découvrir jusqu'à avoir des lunettes et des technologies plus avancées. Donc là encore une fois, c'est des miracles, mais pour lesquels on n'est pas obligé de non plus de dire ben j'arrête d'essayer de réfléchir et de trouver une explication sensée à ces choses. On voit aussi la fidélité de Dieu qui, malgré certaines infidélités du peuple ou les différentes choses qu'on a pu voir dans le désert, qui accomplit quand même sa promesse envers Abraham, qui continue d'accomplir son plan et d'accomplir ce qu'il a dit. On voit qu'il y a quand même cette idée que Dieu ne veut pas de compromis. On voit avec Achan et avec différentes choses que Dieu veut des gens qui lui sont complètement fidèles, qui le suivent pleinement et qui le suivent pas seulement dans la finalité, mais qui font ce qu'il dit. C'est c'est quelque chose qui revient ici dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël. On voit aussi qu'il y a quand même un équilibre entre Dieu qui donne des ordres et qui leur dit de faire des choses, et puis les hommes qui planifient, qui eux agissent aussi. On n'a pas non plus le sentiment que Josué attend systématiquement d'avoir Dieu qui lui dit exactement toujours. Il y a cet équilibre entre il agit en faisant, il planifie, il prévoit, il a sa part de responsabilité, tout en essayant de remettre ses plans et ses idées à Dieu. Et quand Dieu lui dit quelque chose de manière explicite, il suit. Et donc il y a cette dualité. Ici, avec leur entrée dans le pays, commence une longue histoire avec un choix que le peuple d'Israël doit faire, qui est de suivre Dieu ou de suivre les divinités locales, d'autres dieux, et de faire ce que Dieu veut, ou de suivre ou d'adorer d'autres dieux. On va le voir surtout dans Juges, peut-être plus en détail, et après dans la suite de l'histoire du peuple. On a des choses intéressantes avec, comme je vous ai dit, Josué, qui est un type de Jésus. On peut faire plein de parallèles. Là aussi, on pourrait faire toute une étude parallèle sur la vie de Josué avec la vie de Jésus. Il y a aussi plein de parallèles entre la vie de Josué et les choses qu'on trouve dans l'Apocalypse. Adoni-Tzedek, ça veut dire « roi de justice ». Et il était le roi de Jérusalem. Et il va se liguer avec plein de rois contre Dieu. Et donc là aussi, on a des parallèles avec la fin des temps où il y aura une alliance avec un dieu, un faux dieu qui va dominer à Jérusalem et qui va combattre contre Dieu. On voit notamment avec, par exemple, cette grêle, ces pluies un petit peu du ciel qui vont tuer des gens. C'est des choses qu'on voit aussi en la fin des temps. On sait que la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il va y avoir des choses bizarres au niveau céleste, avec les étoiles, le ciel. Et là, cette idée que la terre se serait peut-être arrêtée ou ralentie, ou qu'il y aurait eu des changements, il y a encore plein de parallèles qu'on peut voir. On voit aussi des choses intéressantes avec Rahab, qui est à Jéricho, cette prostituée qui va les aider, et qui est sauvée alors que la ville autour d'elle est détruite. Et cette femme Rahab, qui donc ne faisait pas partie du peuple d'Israël, pour sa foi et pour ses actions, elle va être incluse dans la généalogie de Jésus, et elle va être citée dans Hébreux 11 comme faisant partie des exemples de la foi dans la Bible. Donc elle est dans la liste avec tous les patriarches d'Israël, et on retrouve une prostituée, même pas juive, dans la liste des gens importants et des exemples à suivre. On pourrait peut-être éventuellement faire une comparaison avec Rahab, avec l'Église, qui est pas le peuple juif qui est rattaché, qui est sauvé. Il y a des parallèles, on peut faire plein d'études, les gens, il y a des gens qui essaient de trouver plein de choses. C'est intéressant, et encore une fois, c'est très frappant de voir ces textes qui ont été écrits il y a très longtemps et qui sont tellement proches, avec des imageries et des choses qui sont tellement proches de ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est vraiment pas le fruit du hasard. On va passer au livre de Juges. Peut-être juste pour terminer sur Josué, pour se le garder en tête, c'est l'entrée en terre promise, les conquêtes et le partage du pays, en quelque sorte. C'est un peu la structure du livre. Le livre des juges, qui suit, commence avec un récapitulatif de la conquête de Canaan, qui va reciter ce qui s'est passé. Après la mort de Josué, le livre de Juges, en fait, va dire, bon, après Josué, la mort de Josué, une fois les conquêtes finies et tout, il y a le peuple qui est en place et il y a une nouvelle génération qui arrive et qui ne connaît pas l'Éternel. Et c'est cette nouvelle génération se détourne de Dieu progressivement. Ils se laissent influencer par les peuples qui restaient autour. Ils vont commencer à se mélanger un petit peu, à adorer les dieux des peuples qui étaient autour d'eux, qui habitaient à proximité. Et on va avoir un schéma cyclique où, après s'être détourné, Dieu va envoyer un oppresseur qui va les attaquer, qui va les opprimer, qui va les soumettre. Le peuple qui va se retourner vers Dieu et qui va se remettre à appeler Dieu pour de l'aide. Et Dieu va pourvoir un juge pour venir les libérer de cet oppresseur. Et donc ça va arriver plusieurs fois et c'est un récit un peu... C'est le même schéma qui arrive. Le peuple qui petit à petit oublie, se détourne. Puis quelqu'un qui arrive qui va les opprimer. Le peuple qui dit « Dieu, aide-nous » et Dieu qui fournit un juge qui va venir. Et cette idée de juge, ce n'est pas l'idée d'un magistrat, c'est l'idée plutôt d'un chef militaire qui va avoir l'autorité pour enrôler des troupes, pour combattre et puis pour gouverner sur un territoire jusqu'à un retour, entre guillemets, du calme. Et... Il y a 12 juges qui sont mentionnés. Il y a Othniel, Ehud, Shamgar, Déborah et Barak, Gédéon, Abimelech, Tola, Jaïr, Jephté, Ibtsan, Elon, Abdon et Samson, dont on connaît l'histoire. Et... en fait, Déborah et Barak, c'est un peu, ils sont ensemble parce que c'est, ils le font ensemble. Sinon, effectivement, c'est 13. Ils comptent bien. Et on aura dans les livres qui suivent deux juges en plus, Élie et Samuel, qui eux seront juges et grands prêtres à la fois. Et ça, on va avoir ce récit-là et ensuite l'arrivée de la royauté. Donc on a les histoires avec ces juges. Pour certains, c'est juste une mention de deux versets. Pour d'autres, il y a plus de détails. À la fin du livre, en fait, on a deux histoires un petit peu qui montrent la déchéance morale d'Israël avec un culte idolâtre. Une espèce d'arnaque de religion instaurée avec la tribu de Dan. Puis on a une histoire un peu horrible avec la tribu de Benjamin, avec un homme dont la femme est violée, puis tuée. Puis c'est au sein de la tribu de Benjamin et Israël est tellement outré par ce qui s'est passé que les autres tribus viennent et attaquent Benjamin et un peu... dans leur colère, ils vont presque éliminer toute la tribu de Benjamin et ils s'arrêtent un petit peu à temps en disant « Oh là, on a presque complètement éliminé la tribu. » Et donc, ça montre, ces deux histoires à la fin nous montrent un petit peu l'état moral en plus des histoires qui viennent avant. Mais le verset qui revient deux fois et qui est bon pour se rappeler un petit peu l'état de la situation dans Israël à ce moment-là, c'est « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». C'est l'idée qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de « Chacun fait un petit peu ce qu'il veut ». Cette idée-là revient. Pour le livre des juges, on n'est pas sûr non plus de qui l'a écrit. Il y a des débats de théologiens là-dessus. C'est une des hypothèses, mais ce n'est pas 100% sûr. Ça va couvrir l'histoire d'Israël, de la mort de Josué à la naissance de Samuel. Juges 2, verset 11, au chapitre 3, verset 6... donne en fait presque un auto-résumé du livre. Donc si ça va un petit peu expliquer les récits après avec le donc au verset 10, toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc c'est ce que je vous disais. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. C'est Juges 2, 10 et 11, ce que je viens de lire. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, etc., etc. Puis au verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent, etc., etc. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. Puis verset 16, l'Éternel fit surgir des juges afin qu'il les délivre de ceux qui les dépouillaient. Et donc il y a ce cycle avec cette répétition, il y a un juge qui arrive, ça va à peu près, puis le juge meurt, le peuple se détourne, fait ce qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel envoie des oppresseurs, et une sorte de répétition. C'est intéressant de se replacer dans le contexte un petit peu, de voir qu'en fait Israël vient de conquérir un territoire assez important, et maintenant ils doivent un petit peu s'activer. Ils étaient nomades, et maintenant ils doivent travailler pour s'établir dans cet endroit et en faire une nation. Ils ont des villes à construire, il faut organiser, il faut mettre en place l'agriculture, les chemins, l'irrigation, il faut qu'ils construisent leurs maisons, etc. Il n'y a pas vraiment d'organisation centrale en quelque sorte. Ils étaient dans le désert, ils voyageaient tous ensemble avec la tabernacle, il y avait l'ordre dans le camp, il y avait des choses très établies. Puis là, ils arrivent et c'est un petit peu, il y avait des villes sur un territoire assez grand où ils sont loin les uns des autres. Donc on peut, en y réfléchissant, se dire, on peut se mettre un petit peu à leur place si quelqu'un était né là et grandissait un petit peu loin et n'avait pas vécu ce qui s'était passé dans le désert et les conquêtes pour entrer dans la terre promise, ils se disent d'une certaine manière c'est un peu difficile, on se dit peut-être, d'avoir une unité sans une unité politique centrale, sans se dire on a aussi ici, on n'a pas de centralisation vraiment religieuse, il n'y avait pas de temple ou de, il n'y avait pas de ils continuaient, les Lévites continuaient à louer Dieu mais il n'y avait pas forcément cette unité, et l'unité spirituelle était la seule chose qui restait pour donner une unité au peuple d'Israël. Et à partir du moment où ils laissaient la foi en Dieu de côté, où ils n'étaient plus vraiment attachés à Dieu, en fait ils se fondaient un petit peu avec les peuples qui habitaient autour d'eux, quoi. Ils finissaient par se marier, par louer les dieux des autres peuples, et c'était un petit peu, ils avaient oublié qu'ils étaient un peuple choisi avec une identité forte autour de Dieu. On pourrait presque certaines des hypothèses par rapport à l'écriture de ce livre sont d'ailleurs l'idée que peut-être que c'était un petit peu pour dans l'idée de dire on veut un roi politique. C'était peut-être en regardant cette histoire là où on s'aperçoit que comme il n'y avait pas une unité politique, ça se liquéfiait un petit peu. Et donc il y a dans les hypothèses de pourquoi ou qui a écrit le livre cette idée que peut-être c'était un petit peu une défense d'avoir un roi politique, ou alors peut-être un rappel de dire que finalement c'est Dieu votre roi et vous devez suivre Dieu. Mais c'est bon de se mettre dans cette situation là avec cette absence de structure vraiment forte du pays. Et c'est un petit peu le fruit du vraiment de, explicite de ce que Dieu leur avait dit, c'est-à-dire qu'il avait dit si vous allez quand vous entrez dans la terre promise, je veux que vous éliminiez ces peuples qui louent d'autres dieux parce que sinon ils vont vous contaminer. Et le fait qu'ils n'éliminent pas complètement ces peuples et ils ne vont pas jusqu'au bout de leur conquête, c'est quelque chose qui va pourrir l'existence d'Israël pour le restant de leur existence dans la terre promise. Et il y a certains commentateurs qui vont même jusqu'à dire que jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde la liste des territoires en question, il est question des territoires qui sont aujourd'hui Gaza, Hébron, les hauteurs de Golan. C'est les territoires aujourd'hui où il y a des conflits encore avec le peuple d'Israël à cause des peuples qui sont aux alentours. Et donc certains disent c'est la suite encore de cette histoire qu'on voit dans l'arrivée dans la terre promise et le fait qu'ils n'ont pas pleinement obéi à Dieu jusqu'au bout à conquérir et à éliminer tous ces peuples. Donc c'est Josué, c'est un petit peu glorieux. Il rentre, il gagne, c'est la victoire, ça va bien. Et puis juge, on a l'impression que c'est un retour en arrière. C'est la désobéissance qui conduit à l'esclavage à chaque fois. Mais on voit quand même que, encore une fois, la fidélité de Dieu, quand il se repente et quand il prie Dieu, qu'il fournit un moyen pour les libérer. On voit aussi dans la fin l'histoire avec la tribu de Dan qu'il rejette les Lévites en quelque sorte, qu'il rejette le culte avec Dieu. Il ne respecte pas vraiment l'ordre des Lévites pour ce qu'ils étaient. Et cette idée que chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Chacun fait ce qu'il a envie, chacun décide ce qui est bien ou mauvais, chacun fait ce qu'il pense va lui rendre heureux, et qui sommes-nous pour juger, qui sommes-nous pour condamner? On devrait être libre de poursuivre son propre bonheur, quoi qu'il arrive. Chacun doit pouvoir faire ce qui lui plaît, tant que ça dérange pas trop les autres, à la limite, mais c'est vraiment, encore une fois, un parallèle frappant avec notre monde d'aujourd'hui. Ce qu'on voit dans le livre des juges, c'est que ça ne marche pas et que Dieu leur rappelle à Israël qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes et que c'est Dieu qui décide ce qui est bon et que c'est en suivant ce que Dieu dit être bon que les gens peuvent vraiment avoir la paix et la bénédiction de Dieu.
Question, puisqu'il y a plus de tabernacle à cette époque-là, comment Dieu lui-même s'adressait au peuple d'Israël?
Le plus souvent, c'était à travers les juges. Quand on voit dans les histoires, il y a des récits avec Déborah, Gédéon, Jephté ou Samson, où Dieu parle explicitement aux personnes et il va s'en servir pour les diriger et leur dire ce qu'il veut qu'ils fassent. Maintenant que je suis en train de l'enseigner, je me suis posé la question en fait, et je ne suis pas sûr s'il y avait encore le tabernacle ou pas. Je vais le rechercher parce qu'il n'en est pas du tout question, et je suis pas sûr. J'ai pas du tout d'idée à ce niveau-là, donc faut que je le cherche pour voir, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il ne puisse pas établir le tabernacle à un endroit et qu'il puisse continuer à louer. Et on va voir avec notamment Élie et Samuel que eux sont des grands prêtres et qu'il y aura, ils ont les sacrifices qui continuent. Et on sait aussi que les Lévites ont encore leur place dans le territoire. Ils ont encore leur fonction de Lévite. Donc je dirais, je pense qu'il y avait encore le tabernacle. Qui était peut-être établi à un endroit fixe, Mitzpah, où on voit après avec David qu'il y a l'Arche de l'Alliance qui a différents endroits à Siloé, avant d'avoir Jérusalem comme point central. Que je m'en renseignerai, je vous dirai ça. Voilà, dans ce livre, il y a des histoires sur lesquelles on ne s'attarde pas, mais qui sont là aussi des personnages qui reviennent dans Hébreux comme étant des exemples. Gédéon, l'histoire de Samson, qui sont des personnages qui suivent Dieu et qui font des choses incroyables par la puissance de Dieu. Et on arrive au livre de Ruth, avec cette histoire, quand on sait qu'elle se passe pendant la période des juges. On n'est pas exactement sûr de quand c'était, des dates exactes. On voit juste au début, à l'époque des juges, qu'il y a eu une famine dans le pays. Et donc on a une histoire en fait avec une. Ça commence avec un certain Élimélec et sa femme Naomi, qui pendant une famine vont partir dans le pays de Moab, qui est au sud-est. Et leurs fils vont prendre deux femmes du pays des Moabites, dont l'une s'appelle Ruth. Et Naomi perd son mari, et puis Ruth va aussi perdre son mari. Et la belle-sœur, je crois, aussi. Et l'autre fille de Naomi va rentrer chez elle, mais Ruth, elle, s'attache à Naomi et lui dit « Non, je veux rester avec toi. » Et elle retourne au pays de Juda, à Bethléem. Une fois rentrée, Ruth va faire la rencontre de Boaz, qui est de la famille de Naomi. Et c'est en travaillant dans les champs pour pouvoir à ses besoins et à ceux de sa belle-mère qu'elle va se faire remarquer. Et ce Boaz va lui offrir sa protection et sa faveur. Et puis, ils vont se marier. On va voir qu'en fait, ce Boaz est en fait dans la lignée de David et ensuite de Jésus aussi. Donc c'est un livre qui est souvent étudié par les conférences de femmes, parce que Ruth est utilisée comme un exemple au niveau de sa conduite et de comment elle se comporte. On n'est pas sûr non plus pour ce livre de qui l'a écrit. C'est encore point d'interrogation. Ouais, enfin, c'est un peu le Samuel, c'est un peu la carte va tout à cette époque-là. C'est pendant le premier verset le dit en fait, pendant le temps des juges. Et donc ce récit est intéressant parce que le temps des juges finalement est assez dur. Un peu un temps d'anarchie où il peut se passer des choses assez horribles. On le voit avec les histoires à la fin du livre des juges, avec la tribu de Benjamin par exemple. Il y a vraiment des histoires un peu sordides. Et le livre de Ruth nous donne une image un peu plus douce et un peu plus agréable de cette époque-là, avec des choses un peu plus positives. Et où aller avec ça, on peut peut-être juste expliquer les détails. Il y avait des règles dans la loi pour tout ce qui était descendance, où l'idée de descendance était très importante à l'époque, et donc Dieu pourvoyait des moyens. Si, si un frère mourait et que ses frères étaient dans la mesure de le faire, ils pouvaient prendre la femme de leur frère pour assurer en quelque sorte une descendance au frère qui était décédé. Il y avait aussi des droits de rachat dans des cas un peu particuliers s'il n'y avait pas de frères. Et il y a cette idée, donc c'est Boaz, de proches parents qui pouvaient avoir le droit de d'épouser la femme pour assurer une descendance à celui qui était décédé, pour assurer une postérité. Et ce qui va se passer en fait, c'est que Boaz est un proche parent de Naomi, et Ruth va en quelque sorte lui demander de l'épouser. Il va vérifier, il y a un autre proche parent qui est plus proche en quelque sorte, qui dit non, je te laisse y aller. Et puis Boaz va épouser Ruth. Et là, on a encore une fois plein de parallèles avec le Nouveau Testament. Et on dit notamment que le livre de Ruth, que Ruth est une image de l'Église. Et que c'est peut-être un des passages dans l'Ancien Testament qui est le plus explicite au niveau de la préfiguration par rapport à le temps de l'Église. Et on voit qu'un petit peu comme Rahab, Ruth, c'est quelqu'un qui n'était pas juive, qui était moabite, qui n'était même pas dans le peuple, mais qui, à cause de sa foi en Dieu et à cause de ses actions, va être incluse. Et elle aussi, elle est dans la lignée de David et de Jésus. Donc vraiment une place importante, alors qu'elle n'était pas... elle ne faisait pas partie des plans, entre guillemets. Et ça fait un petit peu écho à l'Église. Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Et puis, après Jésus, en fait, Dieu va inclure l'Église qui n'était... Il va rattacher le rejeton, le peuple qui n'était pas supposé faire partie du plan de Dieu. Et on peut vraiment encore une fois faire une étude très détaillée. Si on veut, par rapport au personnage Boaz, c'est le proche parent. Le mot qu'il utilisait, c'est le mot de Goel en hébreu, qui veut dire proche parent ou rédempteur, celui qui rachète. Et ça fait évidemment penser à Jésus, qui est notre rédempteur. On voit aussi qu'il est le seigneur de la moisson. Quand Ruth le rencontre, c'est pendant la moisson, c'est lui qui est le chef sur le champ en question. C'est lui qui va acheter le droit d'épouser Ruth, qui va payer pour pouvoir l'épouser, un petit peu comme Jésus a payé pour pouvoir épouser l'Église. On voit que Ruth, elle, c'est une étrangère au milieu des Juifs, un petit peu comme l'Église, et ce sont les étrangers parmi les Juifs. On voit qu'elle ne remplace quand même pas Naomi, qui a un destin différent. On voit que Ruth va apprendre les habitudes de Boaz et va connaître la culture de Boaz grâce à Naomi, ce que Naomi va lui dire, comment se comporter vis-à-vis de Boaz. Un petit peu comme l'Église va profiter de tout l'Ancien Testament, de tous les écrits et de toute l'histoire du peuple juif. Naomi, c'est le symbole, c'est Israël en préfiguration. C'est elle qui retourne dans son pays, qui a été en exil pour pouvoir rencontrer Ruth, et qui ensuite, en revenant dans son pays, va ramener en quelque sorte et va permettre à Boaz de rencontrer Ruth, un petit peu presque comme la période d'exil d'Israël et puis le retour au pays. Et il y a vraiment des parallèles à foison. Là encore une fois, c'est un livre qui, on se dit, c'est pas possible que ça ait été écrit par hasard. Il y a trop de choses. Euh, On voit même que Naomi finalement rencontre Boaz grâce à Ruth, c'est Ruth qui va faire la rencontre et qui va ensuite permettre à Naomi de rencontrer Boaz. Il y a même, si on veut pousser encore plus loin,
comme les Juifs rencontrent Jésus au travers des chrétiens.
Pardon ?
Comme les Juifs rencontrent Jésus au travers des chrétiens.
Voilà, exactement. Et puis il y a, dans le récit, quand Boaz remarque Ruth dans les champs, il va demander à un serviteur qui n'est pas nommé, et c'est ce serviteur qui va les présenter en quelque sorte, et donc il y a des commentateurs qui disent que c'est même peut-être à l'image de l'Esprit Saint dans l'histoire qui va faire le lien entre Jésus et l'Église. Et le livre de Ruth est typiquement lu à la fête de la Pentecôte pour le peuple d'Israël, et c'est le moment aussi où plus tard il y aura la naissance de l'Église. Donc il y a vraiment des parallèles incroyables. Là aussi on peut faire toute une étude, c'est tellement riche que il rentre dans les détails de chaque presque chaque verset, chaque symbolique, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait s'attarder. C'est la fin de l'étude pour ce soir. La semaine prochaine, on va regarder donc les livres, je vous disais, de Samuel, donc 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois et 1 et 2 Chroniques. Là aussi, il y aura beaucoup de matière, beaucoup d'histoire. Pour rappel, encore une fois, donc là, on a l'entrée en terre promise et puis le temps jusqu'à au début de la monarchie. Et puis c'est tout pour l'instant. Je vais prier, puis si vous avez des questions ou des choses, on peut prendre un petit moment pour discuter. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces textes et pour ces éléments prophétiques, Seigneur, ces images, ces types qui ne peuvent pas être le fruit du hasard, qui sont ta main, ta signature, Seigneur, dans ces textes et ces livres. Merci aussi pour ton plan, pour ton caractère qui est révélé, Seigneur. Aide-nous à te suivre, à t'obéir et à prendre ces histoires pour les adopter, pour en faire des réalités dans nos vies, Seigneur. Ces éléments qui nous montrent ton caractère, qui tu es et ce que tu veux de nous en tant qu'hommes, Seigneur. Je te prie de nous aider à réfléchir à ces textes et à ces vérités que tu veux nous communiquer dans ta parole, Seigneur. En ton nom, je prie. Amen.